douce apocalypse, filmé collectif, le FIFAM, on débobine.
We're family people, we don't know nothing about fight.
Je m'appelle Léo, j'ai 11 ans et j'ai un secret, je suis un héros.
Ça vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier? C'est moi.
Quand le ciel devient sombre, tout sombre, quand il fait nuit, pourquoi je me sens triste?
Bienvenue dans ce dernier épisode de On débobine, l'émission quotidienne du Festival international du film d'Amiens, le FIFAM. Et oui, j'ai bien dit dernier épisode car ça y est, nous sommes vendredi le 21 novembre 2025 et pour pleurer avec moi aujourd'hui, Adam, Gaël et Antoine.
Et on pleure déjà à chaudes larmes,
oui,
c'est déjà
sûr. C'est terrible.
Je suis ravie d'être avec vous pour cette dernière.
On est ravis aussi.
Merci pour la politesse, Gaël. Parce que tu es le seul à avoir réagi.
Ouais,
les autres.
Je le sentais pas.
Moi non plus.
Bon, très bien. Je vous propose qu'on passe directement aux dernières interviews autour du festival, hein, puisque vous ne le sentiez pas.
Autant venir. Hein,
voilà.
Oui, voilà. Autant venir.
On va les achever.
Ah ouais, là.
Adam, tu as rencontré Benoît Delépine et Martin Jova. Qui sont-ils?
Benoît Delépine, c'est bah, il est notamment connu pour Groland ou Les Guignols de l'Info, mais aussi d'avoir réalisé des films avec son confrère de Groland qui est Gustave Carverne. Et là du coup il m'a présenté Animal Totem qui est du coup son premier film en solo. Je vais pas trop dire ce qu'il en dévoile dans l'interview parce qu'il en parle notamment en fait pourquoi est-ce qu'il réalise en solo, parce que c'est à cause du fait qu'un autre projet ne s'est pas fait. Mais voilà, et il parle aussi de comment est-ce qu'il a tourné, parce qu'il a tourné avec un 3.56 qui est un format vraiment très très large, et notamment aussi son rapport à la nature, aux animaux, au fait qu'il a fait appel à deux chefs opérateurs. Un pour les prises de vue avec du coup le comédien principal et spécialement pour filmer les animaux. Donc voilà, il en dira plus comment est-ce qu'il a filmé les trucs et tout, mais c'était passionnant.
Et Martin Jova, on va s'écouter les deux interviews les
deux,
à la suite.
Deux en même temps, ok. Ouais. Bah du coup Martin Jova qui a présenté son deuxième film qui s'appelle Baise-en-Ville, et je savais pas à quoi ça correspondait parce que moi mes parents ont toujours dit que c'était une sacoche. Mais en fait c'est la petite sacoche qu'on porte pour prendre nos portefeuille, clé.
Ils avaient raison, du coup, oui. C'est une sacoche.
Oui, voilà, c'est une sacoche. Bah, surtout pour lui aussi, c'était une manière de un petit peu de s'éloigner de son premier film, qui était Grand Paris, qui était quand même une belle réussite, je trouvais. Et en même temps, de toujours filmer la banlieue parisienne dans laquelle il a grandi, et en même temps l'approcher un peu différemment, mais aussi toujours dans cette notion de fraternité aussi qui lui est très chère, et peut-être aussi un petit peu politique aussi. Voilà.
Eh bien, on va s'écouter leur interview l'une à la suite de l'autre.
Benoît Delépine, bonjour.
Bonjour.
Du coup, pour ma première question, c'est Animal Totem et votre premier film en solo sans votre confrère Gustave Carven. D'où vous êtes venu cette histoire à portée écologique?
Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Gustave, on est toujours amis et on a même un projet de film pour l'année prochaine. Donc, c'est pas parce que je voulais pas le faire avec lui, mais c'est parce qu'on avait un projet de film qui s'est pas fait, sur lequel on avait travaillé pendant 2 ans et demi, qui s'appelait Dada. Et malheureusement, on était tellement déçus de pas le faire que, en ce qui me concerne, moi je me voyais pas ne plus être sur un film pendant aussi longtemps. Et j'avais une idée plus personnelle qui m'est venue pendant un combat écologique dans ma région en Charente. Du coup, j'avais cette idée de film en tête, et puis aussi plein d'idées de personnages et de plein de choses qui me sont plus personnelles, que j'avais envie de mettre dans ce film. Et puis j'ai réussi à mettre tout bout à bout, et puis trouver un producteur et trouver un peu d'argent pour le faire. Donc je me suis lancé tout seul, quoi.
Pourquoi avoir choisi Samir Ghesmi pour votre rôle principal? Qu'est-ce qui vous a séduit chez lui?
Alors Samir Ghesmi, il s'est passé un truc incroyable, je ne connaissais pas, enfin je l'avais vu dans quelques films, et je le trouvais vraiment sympathique, on va dire, je l'aimais bien, quoi. Mais il se trouve qu'avec Gustave, on a été président du festival du film francophone à Angoulême, et on a vraiment flashé sur un film qui s'appelait Ibrahim, dont il était le réalisateur. Et on lui a donné 4 prix sur 10, donc quand il est venu chercher ses prix au Grand Théâtre d'Angoulême, on l'a vu traverser la salle 4 fois, et puis venir chercher son prix 4 fois avec 4 façons différentes de le recevoir. Enfin, je suis tombé sous le, le charme du bonhomme. Et dès que j'ai pensé à ce personnage qui arpentait la campagne picarde en tirant sa petite valise à roulettes, j'ai pensé qu'il était extraordinaire pour le rôle, quoi.
Qu'est-ce qui vous a plu dans le choix de cette distance que doit parcourir le personnage de Darius, c'est-à-dire entre l'aéroport de Beauvais jusqu'à la Défense? Parce que du coup, l'aéroport de Beauvais, je le connais assez bien, et du coup, ça m'a fait un peu rire.
Bah oui, bien sûr. Bah, c'est-à-dire que moi, je suis originaire de Saint-Quentin dans l'Aisne, donc en Picardie, pas loin d'ici, hein, pas loin d'Avignon. Donc pour moi, mon père qui était agriculteur là-bas, il y avait plein de souvenirs d'enfance que je voulais quelque part énoncer dans ce film. Enfin, je voulais éprouver ces bons souvenirs de moissons, etc., de balades dans la campagne quand j'étais jeune, dans la campagne picarde. Et donc ça m'est apparu. J'ai tout fait pour trouver un sujet qui place un projet d'usine chimique dans ma région natale. Du coup, tous mes vœux, les idées me sont venues les unes après les autres, mais pour aller en costume avec un bagage comme ça, d'un point à un autre, en traversant la campagne, le mieux c'était de le faire partir de l'aéroport de Beauvais pour aller à Paris à la Défense. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu pour réussir à illustrer mon histoire en tout cas.
Depuis, vous travaillez depuis vos débuts avec le format large, les grands espaces. Mm-hmm. Et du coup, comment est-ce que vous êtes comment est venu ce choix du 356, si je ne me trompe pas?
Voilà, c'est ça. Très bien, vous êtes très bien documenté. En fait, ce qui se passe, c'est que je voulais a priori du cinémascope pour exprimer la beauté et la puissance de ces paysages quasi de western de Picardie. Mais quand j'ai vu les premiers essais au labo à Paris, j'ai été assez déçu. Je voyais ça plus grandiose que ça. Et du coup, j'ai demandé au gars du labo, mais attendez, vous n'avez pas mieux, vous n'avez pas plus large que ça? Et il m'a dit, ah bah oui, si, j'ai aussi toute la marge de sécurité à gauche et à droite qui est impressionné aussi. Mais ça, on ne l'a jamais montré à personne parce que les télés n'en veulent pas. Et j'ai dit, ça tombe bien, ils ne veulent pas de mon film non plus. Donc il m'a montré ce que c'était, et là j'ai flashé grave dessus. Et on a donc tourné avec ce format-là, parce que j'ai un producteur, Christophe Barral, qui est assez audacieux pour avoir accepté.
Parce que ouais, moi quand j'avais vu les images déjà dès la bande-annonce, en fait c'est un format qui est vraiment très grand. Et notamment en fait moi ce qui m'intéresse, c'est que vous avez travaillé du coup avec deux directeurs photo, à savoir un chef opérateur classique Hugues Poulain, voilà. Et un directeur de photo à minimalier, Thomas Labouras. Est-ce que c'était directement voulu dès le départ du projet, et est-ce qu'ils sont entrés en contact entre eux pour bosser entre eux, ou ils ont fait chacun leur image de leur côté?
Alors, non, c'était voulu de ma part. Enfin, je voulais vraiment ça. Alors, Hugues, je travaille avec lui depuis notre premier film à Altra, en 2003. Enfin, on a tourné en 2003, donc je connais parfaitement et on s'entend hyper bien pour cadrer les films. On a une vraie complicité, mais moi j'attendais quelque chose de plus pour avoir le regard des animaux, et j'ai choisi un deuxième chef-op parce que je trouvais que ça serait vraiment bien que ce chef-op là il ait une forme d'indépendance autour de notre tournage, c'est-à-dire que comme il est censé avoir représenter le regard subjectif des animaux, et bien il faut qu'il se mette dans la peau d'un animal autour de notre programme, de notre tournage, pardon. Ce qui fait que, et bien parfois, même quand, bien sûr, il ne pouvait pas apparaître sur le plateau, mais pendant ce temps-là, pendant que nous, on tournait les scènes dites classiques, lui pouvait aller tourner des insectes, une abeille, une couleuvre, ou le feuillage d'un arbre, etc. Il se baladait dans la campagne autour de nous. Et puis quand nous, on avait fini notre tournage, là, on choisissait tous les jours un animal et se mettait dans le regard subjectif d'un animal, et nous on refaisait la scène qu'on avait déjà tournée, quoi. Ce qui donne un résultat assez étonnant, surtout qu'avec cette image très large, j'ai pu même, par exemple, montrer ce que voient les animaux qui ont des yeux sur le côté, qui voient eux, qui ont un champ de vision beaucoup plus important que le nôtre, ou aussitôt les animaux qui voient en noir et blanc, ou à qui il y a un bâtonnet de moins dans la rétine, donc il y a une couleur qui saute, etc., etc.
Darius, c'est une sorte de mix entre Monsieur Hulot, où il se... Là, il n'a pas une sorte de canne, mais il a sa petite valise à roulettes. Qui, les objets à roulettes sont souvent récurrents, en plus, dans votre cinéma. Et il y a aussi cette, ce travail, en fait, avec les espaces. Notamment, moi, ça m'a fait penser, dans les images, à Cary Grant, dans La mort aux trousses. Et comment est-ce que vous avez travaillé ça, du coup, avec, avec le comédien, avec la gestion de l'espace, parce qu'il est souvent presque un peu absorbé par la nature. Comment ça s'est fait, cette physicalité?
Alors là, enfin, effectivement, c'est marrant, tu parles de Cary Grant, mais effectivement, on pense à des grands espaces, et puis à un homme un peu insecte au milieu de cet espace-là, on en arrive forcément là. Il y a d'autres films comme genre Canicule, avec cet acteur qui fonce poursuivi dans les ballots de paille aussi. Mais effectivement, dès qu'on donne une forme d'importance à la nature, tout simplement, et moi avec mon format, c'est d'autant plus tentant, quoi. C'est-à-dire que quand tu as la chance d'avoir un format comme ça, tu dois l'utiliser. C'est-à-dire que, en plus, non seulement tu dois, mais tu peux pas faire autrement, dans le sens où tu peux pas tout d'un coup. Si, j'ai fait aussi des plans serrés, mais c'est une tentation trop forte de montrer le personnage petit dans un immense espace, de profiter de ça pour avoir des cadres très originaux, quoi. Donc effectivement, c'est dû aussi à ce choix du format, mais aussi ce goût pour les westerns et les films avec un peu d'air, et puis un hymne à la nature surtout. Il fallait montrer aussi cette grandeur et cette puissance de la nature environnante.
Benoît Delépine, merci beaucoup.
Merci à toi.
Martin Jova, bonjour.
Bonjour.
Comment vas-tu? Parce que du coup, t'es en pleine promo du film et tout, ça doit être
super apporter ce film. Et ben, tu vois, c'est un peu une double émotion, parce qu'en même temps, je suis explosé, je suis crevé. Et je me dis, en fait, la situation de la salle et du cinéma est tellement difficile en ce moment, et tellement menacée, qu'il faut quand même réussir à profiter, même si c'est intense et dur. Parce que peut-être que dans quelques années, on ne pourra plus faire tout ça, faire des films, aller dans des salles, les présenter. Donc, je prends beaucoup de plaisir. Je rencontre plein de gens super sympas. Les projections se passent bien. Les gens, ils ont la banane à la fin, tu vois, donc ça me donne de la force. Mais oui, c'est fatigant quand même, c'est sûr. Mais merci pour la question, c'est cool.
Pourquoi du coup ce titre Baisonville? Parce que du coup, je savais pas à quoi ça correspondait. Ouais. Parce que du coup, il a une double connotation dans le film et même en général.
Le titre, en fait, j'ai eu l'idée du titre avant l'idée du film. Dès que j'ai découvert l'existence du Baisonville, je me suis dit, il faut que je fasse un film qui s'appelle comme ça. Je trouvais que ça me permettait de, encore une fois, parce que j'avais déjà fait dans d'autres films, de parler de la grande banlieue, de l'éloignement des transports, des galères, tu vois. Et puis aussi d'évoquer les relations amoureuses, peut-être à l'heure d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire c'est être un garçon aujourd'hui, être masculin ou pas, les interactions qu'on a avec les filles, cette espèce d'injonction à baiser avec les applis de rencontre, se disant les jeunes, forcément, vu qu'on est jeune, on va forcément baiser, tu vois, tous ces trucs-là. Bah, tout ça, c'est dans le titre, en fait. Donc ça m'a guidé. Alors j'avais pas forcément d'idée vraiment d'histoire, mais en fait j'avais toutes les pièces du puzzle déjà en main. Ça m'a pris du temps, et c'est tout ça mariné dans ma tête, mais non, moi j'ai réussi à trouver une structure qui me semblait avoir un sens, qui me semblait fluide, plutôt qui me ressemblait, correspondait à des choses que j'avais pu vivre. Comme c'est dingue ce bruit. Et tu vois, je me suis dit, paf, ça fait des chocs à pic, comme disait la pub à l'époque.
J'aime beaucoup cette référence.
Merci.
Du coup, comme cette sacoche qui permet un peu d'avoir l'essentiel, moi, le cœur de ton film, c'est vraiment de porter un regard assez tendre, en fait, sur la débrouille, sur la débrouillardise. En même temps aussi, il y a une grande notion de la fraternité aussi, parce qu'on retrouve en fait des acteurs qui ont joué pour toi et qui se sont fidèles depuis longtemps déjà. Ouais. Et ça se sent, en fait, ça te tient à cœur, toute cette notion de fraternité, je me trompe?
Mais grave, en fait, c'est vrai que moi, je réalise mon rêve, tu vois, en faisant des films, mais c'est pas au prix de quelque chose où je me perdrais, où je serais corrompu, ou tu vois, où je me retrouvais dans une ambiance qui est pas la mienne, qui me plaît pas. J'essaie de rester, de travailler avec des gens, d'être fidèle et travailler avec mes amis, que ce soit les techniciens ou les acteurs, les actrices. Et c'est vrai qu'on a fait un paquet de films ensemble, je me sens bien avec eux, je les aime à l'écran, mais aussi dans la vraie vie. Et donc, pour travailler, je trouve que c'est les conditions qu'il faut. Tu vois, tu te sens bien, tu sais qu'on se comprend, qu'on se connaît. Je suis pas stressé sur le plateau parce que c'est mes amis. Alors, ça n'empêche que parfois, même quand la situation se tend un peu, on est d'autant plus cash les uns avec les autres. et en même temps c'est fluide, et moi j'ai envie de bosser comme ça, tu vois. Je me verrais pas bosser avec une star pour faire plus d'entrées, machin, si je me sens pas bien avec. Après, si on devient pote et tout, c'est cool, mais moi j'ai envie de travailler avec des gens avec qui je me sens bien.
Moi, on démarre un peu comme un stoner movie avec cette espèce de baignoire, avec ce bouchon qui manque et tout. Mais il y a aussi, au fait, la, on resserre en fait sur une, presque une dimension kafkaïenne. En fait, il doit se payer le permis. Moi, il doit avoir le permis pour travailler, mais en même temps, il doit avoir de l'argent pour avoir le permis. Mais en même temps, en fait, ça te permet d'avoir une dimension burlesque aussi dans ton film. Mm. Est-ce qu'il y a des références à laquelle tu as pensé quand tu as construit directement? Est-ce qu'il enchaîne des situations plus improbables les unes que les autres?
Bah, pas mal, tu vois, des films, mais c'est surtout ma vraie vie, je pense, tu vois. Ce moment où j'étais coincé dans cette boucle entre l'intérim, le permis, machin, je me suis posé ces questions-là, et je pense qu'on est nombreux à se les poser dans ma génération. Et c'est un état de fait que l'accès au travail aujourd'hui, il est galère. Le permis, c'est hyper important. En même temps, c'est pas facile à avoir, ça coûte cher. Enfin, je veux dire, c'est une réalité, quoi. Après, il y a des films, bien sûr, qui m'ont influencé. Je dirais peut-être Super Grave, Greg Mottola, et Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson.
Ah.
Ouais, sur le mélange des genres, tenir la comédie, en même temps que ce soit assez mélancolique, ce personnage vraiment mal dans sa peau, Adam Sandler.
Dans les scènes de boulot nocturne, mais aussi sa monitrice, qui est un peu sa monitrice de coach en séduction.
Ouais, sa coach de vie, quoi.
Ouais,
vois,
voilà, ça coûte.
Comme elle dit, le permis c'est 50% dans la voiture, 50% dans la tête.
C'est ça. Et il y a, moi, évidemment, c'est des travaux, moi, c'est de jeune adulte, mais je trouve qu'il y a une sorte de, peut-être de côté enfantin dans la manière dont ils jouent, la manière dont ils ont le check, ouais. Ou aussi en fait, moi, quand ils portent le sac, ça me fait penser un peu à Ghostbusters, c'est obligé d'y penser.
Totalement, c'est totalement la référence, ouais, carrément. Ouais.
Et est-ce que du coup, pour toi, tu penses qu'on doit aussi garder notre côté enfantin quand on aborde ces milieux-là, adultes, où on doit penser à notre vie, à survivre, hein, littéralement.
Totalement, ouais. Je pense que si on se laisse aller à la... au cynisme et, tu vois, au désespoir ambiant, on est foutu. Et c'est vrai que c'est, on peut se dire que le personnage de mon film est complètement con, mais je pense qu'en fait il y a une forme de sagesse dans cette façon qu'il a de garder de la légèreté, un regard enfantin, innocent, de faire confiance aux gens, d'être optimiste. Et je pense qu'on a besoin de réussir à être un peu plus comme ça, sinon c'est la déprime, quoi.
Mais il y a, en même temps, il y a ça, il a ce côté enfantin, mais en même temps, il apprend aussi, comme si en fait, il avait obtenu quelque chose à la fin, moi, de pouvoir parler à ses, quand il parle à sa mère
carrément.
Et tout ça.
Bah, sans trop spoiler non plus le film, mais c'est vrai que ce qui peut être perturbant, et c'est quelque chose que j'assume totalement, c'est que les progrès et la trajectoire du personnage n'est pas hyper spectaculaire. Tu vois, il ressort pas en mode super-héros, à pécho une meuf de ouf. Enfin, tu vois, tous les codes de la fiction qu'on peut avoir, moi, j'essaye de me dire, non, en fait, c'est dans la vraie vie, c'est des progrès à échelle humaine. Et là, à la fin du film, je laisse au spectateur la liberté de se faire son avis. Mais c'est vrai que, on va dire que c'est des petits pas de fourmi. Mais comme dans la vraie vie, moi, j'étais hyper content de pouvoir juste... dire à ma mère que je l'aime, mais c'est pas rien en vrai.
Martin Jova, merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Merci Adam pour la réalisation de ces interviews. On ne peut pas finir cette émission sans revenir sur nos films coup de cœur quand même. Lequel vous a particulièrement touché et un qu'on n'a pas encore évoqué peut-être dans des bobines quand même, pour qu'on puisse donner un maximum d'avis sur les films de cette programmation 2025.
Écoute, parmi les films que j'ai vus, je vais pas reparler de Colin Scatzi parce que
t'en as déjà parlé et ça rentre pas dans ce que j'ai dit.
Et ça rentre pas dans ce que j'ai dit, mais ça reste quand même une grosse claque quand même pour l'avoir découvert en salle. Et j'ai pas parlé du film de la compète, Le gâteau du président, mais je suis persuadé qu'il sera au palmarès, je le redis ici, parce que voilà, et s'il y est, il sera du coup rediffusé samedi, donc si vous avez l'occasion d'y aller, surtout allez-y quand même, parce que voilà, je pense que.
Je suis quasi persuadé qu'il va y être.
Voilà. Pour une brelle si jamais il n'est pas nommé.
Petite parenthèse avant que tu ailles sur un autre film coup de cœur. Si vous voulez réécouter tout ce qu'on a évoqué déjà en amont, les films en compétition, pardon, Koyaanisqatsi.
Koyaanisqatsi.
Oh non, j'y étais presque.
Koyaanisqatsi.
Ben, je pense que je y arriverai.
Et Antoine a envie de la vanne, a envie de partir en fait.
Ah oui non mais.
Je pense que je vais réussir à dire ce ça que avec l'air de la musique.
Oui.
Je pense.
Oui.
Mais bref, vous avez compris. Tous les épisodes ils sont déjà disponibles sur le site de Campus, de Radio Campus Amiens. Mm. Voilà. Et je te redonne la parole, Gaël.
Merci, merci. Bah écoutez, parmi les films que j'ai vus et qu'on n'a pas encore traités, je pourrais vous parler de L'œuvre de l'ange de Mamoru Oshii, du coup, qui était présenté en version restaurée. En avant-première, c'est une version restaurée qui sort le 4 décembre, distribuée par Eurozoom, qui à chaque fois distribue d'ailleurs très bien.
Ils avaient fait une très belle restauration de Akira, notamment.
Oui, et en fait, à chaque fois, ils œuvrent pour sortir en France des œuvres de l'anime japonaise. Voilà, en gros, vraiment. Un peu rare et tout, des versions restaurées, des ressorties et tout. Enfin voilà, ils sont vraiment au taquet là-dessus, c'est assez super d'avoir ça. Mais voilà, du coup, le 4 décembre, cette version restaurée ressort en salle. Je ne sais pas si elle passera sur Amiens ou pas. Mais en tout cas, pour la revue en première, c'est une très belle restauration. Et c'est du coup un film de Mamoru Oshii que je n'avais pas vu, parce que moi, j'ai vu essentiellement Ghost in the Shell de Mamoru Oshii surtout. J'ai même pas vu le deuxième, qui apparemment est très cool. Mais il faudrait que je revoie le deuxième Ghost in the Shell. Voilà, mais du coup, c'est un film qui, à l'époque, pour resituer, il l'a fait du coup avant Ghost in the Shell, si je me trompe.
Bien
pas
avant.
Et c'est à l'époque où en fait il œuvrait surtout principalement pour la télévision, pour les animés japonais à la télévision et tout. Et en fait il a fait ce film comme un truc quasiment un film post-apo muet, pratiquement il y a quasiment pas de dialogue. C'est dans des terres désolées où on suit vraiment une petite fille qui protège un œuf. Et il y a un espèce de personnage un peu mystérieux qui se balade avec une espèce d'épée un peu christique, steampunk un peu, enfin je sais pas trop comment dire le truc, mais voilà. Mais en gros on sait pas trop si c'est un protecteur, si elle doit se méfier de ce personnage, etc. et tout, mais c'est un peu une sorte de road trip presque un peu dans ce paysage en pleine désolation de ces deux personnages. On pense d'ailleurs à plein d'autres post-apo, on pense notamment à The Last of Us par rapport au duo Joel et Lee, un adulte qui protège une enfant, etc. et tout, à La Route, enfin à plein d'œuvres qu'on a pu voir par-dessus dans le post-apo, même Les Fils de l'Homme de Cuaron où il y a énormément de symboles sur la maternité, etc. On y pense beaucoup. Mais voilà, c'est des visions de post-apo assez dingues, c'est une BO très envoûtante, mais c'est aussi un film très cryptique. Mais voilà, ça a été une sacrée belle découverte dans ce festival cette année, voilà, pour cette édition.
Et de votre côté, Adam et Antoine, qu'est-ce que vous avez vu qui vous a particulièrement touché ?
J'y vais ? Ok.
Mais attention, hein, un film qu'on n'a pas encore évoqué.
Ah oui, bien sûr.
N'oublie pas. Hein.
Bah, du coup, je vais parler d'un film qui était dans la section Vie en mouvement, qui s'appelle Les Éternels de Jason Kay, qui a sorti notamment un des plus beaux films cette année qui s'appelle
Les Feux Sauvages.
Oui, Les Feux Sauvages, pardon. Et en fait, Les Feux Sauvages, en fait, c'est un film qui est issu des rushs de ses autres films,
ouais,
dont notamment celui dont je parle, Les Éternels. En fait, il s'est servi de ses chutes, donc voilà, c'est un très 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 beau film.
Du coup, c'est un film fait de bric et broc, quoi.
C'est ça.
Ouais, clairement. Ouais,
et qui raconte toute l'histoire de son pays depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Là, Les Éternels, c'est sur une période d'à peu près 10 ans. Parce qu'en fait, c'est un cinéaste qui a retracé quasiment toujours l'histoire de son pays. Là, on parle notamment d'un pays en transformation, en changement aussi. Comment est-ce que le capitalisme est apparu en fait en Chine et a pris la place en Chine dans une espèce d'exploration des décors naturels et en même temps, comment est-ce que la ville prend la place de ça. Et en même temps, avec cette fausse histoire de gangster, de meurtre, en fait, qui n'intéresse pas vraiment Jason Kay, mais pour vraiment parler de son pays qui est en train de changer, de se transformer. Et en fait, Jason Kay le filme toujours comme une espèce de nébuleuse, de truc qui est toujours en mouvement, qu'en fait, on ne peut pas arrêter, on ne peut pas stopper, et qui, du coup, est éternel.
Oh, waouh!
C'est beau.
Mais quelle magnifique fin, tu vois, ce retournement de situation.
Mais du coup, film à ne pas confondre avec Les Éternels de Chloé Zhao chez Marvel.
De Chloé Zhao chez Marvel, à ne pas confondre, ouais. Voilà. Ça n'a rien à voir, mais voyez-le, parce que c'est... Et voyez tout ce qu'avait Jason Kay.
Le Marvel ou le...
Non, le film de Jason Kay, qui est un des plus beaux films, qui est son meilleur film encore actuellement. Voilà.
Et toi, Antoine, est-ce qu'il y a un film dont tu as envie de parler ?
Disons que j'ai envie de parler de Le Monde, la chair et le diable, de Ranald McDougall, qui est sorti à la fin des années 50. Et il était dans la section Douce Apocalypse. Ouais, c'est ça, Douce Apocalypse. Et je l'ai trouvé assez étonnant. Alors bon, déjà, il est, on peut dire, pour un film de 59, qui est quand même pas mal en avance, puisque l'un des thèmes centraux du film, c'est une histoire d'amour interraciale. On peut dire que c'est assez osé, je pense, pour les années 50. C'était quand même assez mal vu de montrer ce genre de relation. Mais ce que j'aime bien, c'est que le film va plus loin. Bon, alors, déjà, je vais quand même le résumer brièvement, mais le résumé est assez simple. le personnage principal, donc, qui est un Afro-Américain, est en train de travailler dans les mines au début du film. Il se retrouve enseveli. Et alors qu'on est en train d'essayer de tout déblayer pour le faire sortir, d'un seul coup, il n'y a plus de réponse. Il n'entend plus les machines travailler pour essayer de le sortir. Et plus personne ne répond à la radio. Donc il sort. Et quand il sort, il n'y a plus personne. Tout le monde a disparu de la surface de la Terre, tout simplement. Et il ne sait pas d'où ça vient. Donc il se rend à New York pour essayer d'avoir des réponses, essayer de trouver des gens. Évidemment, il va trouver personne dans un premier temps, jusqu'à ce qu'il y ait une seule et unique femme qui lui apparaisse, donc une blanche, et avec qui ils vont nouer une relation c'est pas forcément très net dès le départ, mais petit à petit, ça va tendre vers une attirance pour les deux, jusqu'à ce qu'il y ait un troisième personnage qui la rejoigne et qui lui aussi est blanc. Et ça provoque des inquiétudes qui étaient déjà présentes chez le personnage principal, qui a peur qu'elle l'aime uniquement parce qu'il est le dernier homme sur Terre. Et donc il y a systématiquement cette distance entre les deux, parce qu'il a peur que sa couleur de peau pose problème. Elle-même, elle est un petit peu soumise à des stéréotypes raciaux qu'elle a appris à suivre, alors qu'elle n'est pas forcément profondément raciste. Et voilà, ça pose énormément de questionnements très intéressants pour l'époque. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on aurait pu s'attendre, alors soit à quelque chose d'assez radical du style « elle choisit le blanc », qui aurait été profondément décevant. On aurait pu s'attendre à quelque chose de simple aussi, où elle aurait simplement choisi le personnage principal. C'est un petit peu le cas, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on a une sorte de beau message d'espoir à la fin. Je ne dis pas exactement comment ça se termine, mais qui semble être un espoir pour un avenir où il n'y a plus de barrières en raison de critères sociaux, raciaux, pardon, entre les gens. Et un message d'espoir aussi pour un monde sans guerre, un monde où les peuples seraient unis. Voilà. Et voilà, ça paraît un petit peu bateau dit comme ça. C'est vrai qu'on se dit, ça fait pas tourner la roue une nouvelle fois. Mais pour 59, et surtout par rapport au message racial, j'ai trouvé ça vraiment touchant, vraiment en avance sur son temps. Et ouais, je pense que c'est important de noter ce genre de film.
Bon. J'ai essayé de retarder au maximum la fin de cette émission.
Oui, en fait, on fait que ça, on fait que retarder la fin.
Mais on y est.
On y est, c'est la fin.
C'est le moment de clôturer On Débobine 2025. Vous avez un mot pour terminer en beauté cette nouvelle saison ?
Ce débobinage. Nouvel horizon. Moi, ça fait 10 ans que je couvre le festival. Je l'ai fait en tant qu'étudiant, je l'ai fait en tant que jury étudiant, je l'ai fait en tant que, du coup, que bénévole même aussi, et là, du coup, presse. Mais en 10 ans d'édition, les éditions qui m'ont le plus resté en mémoire, c'est quand même celle où c'est le festival arrivé à allier à la fois une certaine exigence avec un cinéma d'auteur, etc., tout en ayant quelque chose d'assez populaire qui faisait que les gens avaient envie de venir en salle, en fait. Voilà. Donc moi, j'espère que le festival va continuer à garder un horizon populaire, en fait. Tout en étant, ça n'empêche pas d'être dans une exigence, encore une fois, artistique, hein, mais voilà. Mais je pense que c'est un truc important à garder en tête, c'est qu'il faut que ce festival reste populaire et s'ouvre à tout le monde. Voilà, surtout. Voilà.
Un très beau message d'espoir pour l'avenir.
Oui, mais je sais pas s'il servira, mais voilà.
Toi, Antoine, c'était ton premier festival de film.
Oui, c'était le premier. Bah, j'espère que ce sera pas le dernier, parce que vraiment, c'était vraiment une super semaine. J'ai regardé un maximum de films, j'ai vraiment profité à fond. Je suis ravi de mes interviews. Non, honnêtement, super expérience à refaire, clairement.
Ça me rappelle.
Et merci de m'avoir convié, pour le coup.
Ouais, normal, mais ça me rappelle mes premières années quand tu dis ça, c'est fou.
Oh, c'est beau,
ça
ce que tu dis.
Tu vois, j'en vois 10 ans en arrière, quand j'étais étudiant.
Et Adam, voilà. Toi, tu as un petit mot ?
Bah, j'espère vous retrouver l'année prochaine, j'espère.
Bah, on espère aussi te retrouver toute l'équipe, parce que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir cette année à faire le festival avec vous. Mmh. Alors, il y a des émissions où tout le monde était là, tout le monde n'était pas forcément là.
Ouais, essayez d'être là au max.
Mais vous avez été fidèles et merci. Sans vous, l'émission n'aurait pas eu lieu, n'aurait pas été possible.
Ça aurait vraiment été dommage.
Ça aurait été très dommage
parce qu'à chaque fois, c'est quand même un plaisir.
Oui.
Donc, voilà. Alors, quand même, parce qu'on ne peut pas terminer sur ces paroles un peu tristes. Mais alors, je le rappelle, ce soir, c'est la cérémonie de clôture du FIFAM, Festival International du Film d'Amiens. C'est à 19h30 à la Maison de la Culture. Et le film qui va terminer en beauté cette 45e édition du FIFAM, c'est Vacances romaines de William Wyler. Et Gaël, toi, tu es le seul autour de la table à avoir vu ce film.
Alors, Vacances romaines, du coup, de William Wyler, en effet, William Wyler, c'est un artisan hollywoodien qui a beaucoup œuvré pour le cinéma classique hollywoodien des années 50, l'âge d'or Hollywood. Voilà, il a notamment ont fait des un péplum notamment très connu qui est Ben-Hur, évidemment. C'est Ben-Hur, le grand péplum, évidemment.
Évidemment.
Voilà,
évidemment.
Que Ridley Scott a ringardisé avec Gladiator quelques années plus tard. Voilà, mais Vacances romaines, c'est une romance hollywoodienne classique entre, alors je crois que c'est Gregory Peck et Audrey Hepburn.
Exact.
Voilà. Voilà, donc c'est un beau duo de cinéma hollywoodien. C'est dans un somptueux noir et blanc. Ça se passe évidemment à Rome, donc c'est très beau, c'est très joli. Il y a notamment une scène mythique où ils sont ensemble sur un espèce de sur une Vespa. Ils sont tous les deux sur une Vespa en train de
et ils ont lancé la mode d'ailleurs des Vespa.
Tout à fait, c'est un peu quand c'est la mode des Vespa. Oui, oui. Non, mais du coup, si vous avez l'occasion de découvrir sur grand écran ce plutôt beau classique hollywoodien, et
allez-y.
Allez-y, voilà, en grand théâtre après la clôture, ça peut être vraiment très sympa comme programme. Voilà. Voilà.
Merci Gaël.
Et je t'en prie.
Bon, voilà, nous y sommes, c'est fini. Merci à vous tous pour votre présence et votre travail dans cette émission. Chers auditeuristes, n'oubliez pas que les films qui ont gagné leur licorne seront rediffusés samedi dans la journée, alors restez connectés pour avoir toutes les informations. Et si vous avez raté un épisode de On Débobine, ils sont déjà tous disponibles sur le site de radiocampusamiens.fr. Sur ce, à très bientôt, merci de votre écoute, et n'oubliez pas que Parlons Ciné va revenir sur les films du festival aujourd'hui à 19h.
Oui, entre autres, mais on parlera aussi des sorties de la semaine, surtout.
Eh bien, au revoir, à l'année prochaine.
À l'année prochaine.
À l'année prochaine. Au revoir.